Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien. Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, bien, cette semaine, on va plonger un peu en arrière, on va laisser l'époque moderne de côté et on va aller au XVIIIe siècle, plus exactement au trouver Louis XV. Voilà, alors donc j'ai sous les yeux un livre qui est de Madame Martin Dutheil, AM, alors peut-être Anne-Marie, et le titre c'est « Silhouettes et documents du XVIIIe siècle, Martinique, Périgord, Lyonnais, Île-de-France ». Et c'est édité par, à Périgueux, l'imprimerie commerciale administrative 1 bis rue Victor Hugo en 1932. Bien, donc il y a une dédicace, hein, simplement, cordial souvenir de l'auteur, Madame Martin Dutheil, lauréate de l'Académie française, quand même, hein. Alors, il y a une petite note manuscrite que je vais essayer de lire. Ce livre qui m'a demandé 25 ans de recherche et d'études a paru en 1932 et a obtenu en 1933 une médaille de bronze du comité d'encouragement Bird. C'est une société littéraire du Trocadéro, donc en juillet 1933, et puis un prix de l'Académie en 1934, et nouvelle édition à paraître vers 1937, plus une deuxième partie. Voilà, alors donc on va plonger un peu dans ce livre, donc on disait Silhouettes et documents du XVIIIe siècle. Voilà, alors c'est consacré à plusieurs personnages, il y a des très belles photos d'ailleurs. D'époque, et on va s'intéresser à, Henri de Bertin. Alors, c'est un personnage peut-être un peu oublié, mais qui a été, au temps de Louis XV et un peu de Louis XVI, jusqu'à la Révolution, quand même une personnalité de premier plan comme économiste. Alors, il y a la famille. Alors, le mieux, c'est que je vais lire carrément ce qui est écrit sur le livre. C'est pas très facile de faire, un compte-rendu, voilà. Alors, bien sûr, il y a la famille. Alors, Henri de Bertin, c'est un économiste donc, du XVIIIe siècle. Il est né en 1720 et il va décéder en 1792. Comme je disais, donc on va rejoindre un peu la Révolution. Alors, d'abord, il y a la famille. Alors, Henri de Bertin naquit à Périgueux, où l'on voit encore rue Taillefert, une maison d'apparence modeste qui fut celle de ses parents. Les archives de la ville nous apprennent qu'il fut baptisé le 24 mars 1720. À l'église Saint-Silain, détruite aujourd'hui, mais dont la place de la mairie perpétue le souvenir. Alors, je vous rappelle simplement que ça a été écrit quand même en 1932, ou ça a paru en 1932. Alors, le père Jean de Bertin était issu de ces opulents marchands de Périgueux, bourgeois de l'antique cité, bon serviteur de l'État, habile à gérer la chose publique et également appliqué aux soins de leurs affaires. Il possédait des forges à Anse, dans le Périgord noir, et des bateaux dans le port de Bordeaux, un hôtel à Bordeaux, un autre à Paris, rue de Seine. Et il était cousin de la grande chancelle qui rimait des Philippiques contre le régent. La mère appartenait à une famille du pays qui s'honorait du sang de Louis IX. L'ancienne et la nouvelle France étaient représentées à ce foyer. Le logis des Bertin était situé sur le plateau du Puy-Saint-Front, près de la vieille porte aubergerie. En bas, dans la plaine, venaient s'établir les forains, autour, à l'horizon, un cercle de coteaux boisés. Jean de Bertin était, dit la chronique, un rude homme, travailleur obstiné. Il avait débuté en exerçant à Périgueux les fonctions d'avocat, puis il avait succédé à son père, un autre Jean, comme conseiller au Parlement de Bordeaux. Il était ensuite devenu contrôleur général des Invalides de la Marine, conseiller trésorier de France et enfin maître des requêtes en 1724. Voilà, alors, je vais continuer un peu la lecture. Hein, de sa femme Lucrèce de Saint-Chamant, il eut 14 enfants. Pas mal. Hein. Henri était le dixième garçon. Hein. C'est sur ce fils que se porte sa plus vive tendresse. Il avait au moment de cette naissance acheté deux domaines, celui de Bélis en Périgord et la seigneurie très importante de Bourdeille, qui s'étend sur 14 paroisses, 3 juillet 1746, à Bourdeille, et peut-être dans cette salle marbrée que l'on admire encore actuellement, le vieil athlète a fait son testament. Il a conçu une pensée très nette, celle de faire d'Henri son principal héritier. Il use en cela d'une coutume ancienne de Guyenne qui lui donne le droit d'en désigner un à son choix. Parmi ses enfants, il pourvoit chacun largement et il ajoute « Au résidu de tous mes autres biens, meubles et immeubles, pour recueillir les faits de la donation de la moitié de tous mes biens présents et à venir, faite par mon contrat de mariage avec réserve de choisir l'un de mes enfants mâles, tel qui me plaira. Je nomme et choisis pour recueillir les faits de la dite dotation Jean-Baptiste Henri Léonard ou Henri Léonard Jean-Baptiste de Bertin de Belle-Île, qui est le même. Alors, maître des requêtes, son quatrième fils, et en outre, je l'institue mon héritier universel de tous mes biens présents et à venir en payant mes dettes, l'aigle lui demandant de prier, de faire prier Dieu tous les ans pour le salut de mon âme. Ça, c'est intéressant. Hein, bon, c'est une voix par an. Voilà, alors, donc, bien sûr, le frère aîné ne va pas être très content, mais l'héritier, bon, va lui laisser quand même quelques petites choses. Mais tout ce qu'il possédait, il n'y avait pas de mal. Alors, donc, on va continuer un peu la lecture. Alors, il va bien sûr faire ça, comment je pourrais dire, son chemin, hein, il va dans son chemin. Alors, le nouvel intendant fit son entrée sans apparent dans la seconde ville de France et s'installa le 15 mai 1754, place Louis-le-Grand, aujourd'hui place Bellecouloir, où j'ai passé il y a quelque temps. Voilà, alors ce lendemain, il reçut la visite spontanée de l'Académie Lyonnaise qui va encore le féliciter. Cette démarche de haute courtoisie à laquelle il s'attendait nullement paraît due à l'initiative de Nicolas Deville, ingénieur du roi et membre influent de la dite Académie. Nicolas Deville était une notabilité de Lyon. Bertin le distingua de suite et se lia intimement avec lui. Leur amitié devint bientôt une étroite et féconde collaboration à laquelle les régions lyonnaises durent des ouvrages extrêmement utiles tels que l'amélioration des grandes voies, la création de nouvelles routes, l'entrée prise du canal de Givors, l'installation des mines du bassin de la Loire et l'élévation de la digue, de la tête d'or nécessitée par les crues du Rhône. Ensemble, ils s'occupèrent de la soie et rêvèrent de faire une route directe de Bordeaux à Lyon. La route de la soie, après tout, ça a pris de plus. Voilà. Alors, Bertin était encore dans la fièvre de ses débuts lorsque, pendant l'été, il perdut son père. Appelé dans sa famille, il ne cessa de se faire rendre compte par lettre de ce qui se passait à Lyon. Enfin, après plusieurs mois, il annonce son retour et l'excellent Deville lui écrit avec joie. Bon, ben, je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il a écrit, mais qu'il a pris soin de sa bibliothèque. Je ne sais pas si ça existe toujours, cette bibliothèque, mais ça doit quand même être quelque chose d'intéressant. Alors, Deville, son ami, a procuré une autre surprise agréable à Bertin. Par une attention délicate, il provoque son admission à l'Académie lyonnaise. Cette savante société, que l'année précédente il avait amenée à l'hôtel de l'indépendance, d'après le règlement, Bertin eut dû faire une demande officielle d'entrée. Mais Deville abrégea les formalités, il en a fait la demande et la réponse. Ça, ouais, ça va plus vite. L'intendant est reçu le 6 juin 1755. Voilà, alors on va continuer un peu. Bon, on va retrouver le nom quand même de personnalité de l'époque comme Truden. Alors Truden écrivait enchanté les moires de Lyon, alors c'est la, comment je pourrais dire, les verres à soie, voilà. Les moires de Lyon rapportent aujourd'hui à l'État plus d'un million d'augmentation sur leurs débouchés. Ainsi, le mot d'ordre gouvernemental fut-il de propager la soie dans les provinces du Midi. Et l'on devait-elle que le sud-ouest s'en mêla. En Agenais, un pépiniériste du roi, Ségui, fit planter des mûriers puis élever des verres à soie. Bertin, notre Bertin, qui venait d'hériter de son père les domaines de Bourdeille et introduisit la nouvelle culture. Par son ordre, cette ancienne baronnie du Périgord connut les mûriers, les verres à soie, les manufactures. L'expérience y fut poussée jusqu'au bout et des ouvriers venus du Languedoc apprirent aux gens de Bourdeille à travailler la précieuse matière. Ça fait quand même à l'époque un peu de voyage. Bien. Alors, François de la Tapie, inspecteur des arts et métiers de Guyenne, a parlé de cette petite fabrique de Bourdeille dans le compte rendu d'une de ses tournées d'inspection, bien que peu tendre pour Bertin, qu'il appelle un médiocre esprit, et lui rend un indirect hommage. Alors, il faut reconnaître que Bertin aura quand même des détracteurs, on n'arrive pas à ce poste-là, ça éveillait quelques jalousies. Bien, alors voilà ce que dit la Tapie depuis 25 ans, que M. de Bertin a fait planter des mûriers à Bourdeille et qu'il y fait élever des verres à soie. Il a dépensé, m'a dit M. de Vénac, sont fondés de pouvoir, plus de 60 000 livres. Il n'en a pas retiré 4 000, parce que les mûriers ne réussissent pas. Il y a déjà longtemps qu'il a fait venir du Languedoc une famille exprès pour diriger l'établissement et qui s'occupe principalement de la filature de coton et de la fabrication des bas. Il n'y a qu'un seul métier, recueille ainsi, année commune, 30 à 35 livres de soie, qui, à la vérité, sont assez belles. Alors, pour un tracteur, c'était pas mal dit. Alors, retenons ce dernier mot, évidemment, la Garonne, assez riche de fruits et de vignobles, n'avait pas voulu de mûrier, ni partant de la soie. Mais cette soie, elle daignait la faire belle, et l'essai de Bertin était surtout destiné à servir d'exemple et de travail. C'est là un assez beau titre. Alors, c'est tiré, bien sûr, ce que j'ai lu du journal de la Tapie, qui est daté de 1778. Alors, on va continuer un peu. On va continuer un peu, je crois qu'il reste encore un peu de temps, à Paris. Alors, au milieu de ses occupations utilitaires et presque champêtres, l'intendant du Lyonnais se vit appelé à Paris pour occuper le poste devenu vacant de lieutenant général de la police. Et c'était en 1757. Des mémorialistes ont remarqué que sous son administration, la capitale devint plus sûre, plus saine et mieux éclairée. Les souvenirs de famille confirmés par cette anecdote empruntée aux annales secrètes du règne de Louis XV racontent que par la vigilance, il préserva le souverain de l'attentat savamment ourdi. Ce fait curieux et peu connu, le voici tel qu'il a été rappelé dans une feuille de 1853. Alors, je ne vais pas vous lire toute la feuille, simplement quelqu'un vient le trouver, un manant, comme on disait à l'époque, qui avait entendu des gens qui discutaient et qui voulait empoisonner le roi. Louis XV, et donc Bertel l'a pris sous son aile et l'a amené voir le roi sans doute à Versailles, et puis donc cette personne lui a dit ce qu'il avait entendu, et puis donc Louis XV fut sauvé, comment je pourrais dire, de l'assassinat, et puis on lui demanda qu'est-ce qu'il souhaitait, et la personne a dit ben, j'aimerais bien rester sur Versailles. On lui a construit une petite maison qu'il a occupée même après le décès de Louis XV. C'était après tout, ça valait bien ça. Alors, contrôleur général, alors, il va monter en grade. Nous voici en 1759, la France est en proie à la guerre. Pas chose de guerre de 7 ans, eh oui. L'État se trouve obéré, l'heure est grave. Monsieur de Silhouette, plus connu pour ses dessins que par ses talents financiers, voudrait de quitter le contrôle, impuissant à en rétablir l'équilibre. L'embarras était grand, et pour trouver un successeur, la détresse publique était telle que le roi, les princes et courtisans faisaient porter leur argenterie à la monnaie pour y être fondus et aller ensuite refaire sa provision de vaisselle chez un marchand de faïence à la porte Saint-Bernard. Il fallait quand même manger dans quelque chose. Hein. Voilà, alors Étienne de Silhouette, bon, il est connu évidemment pour ses dessins, alors il est né à Limoges. En 1709, il fut commissaire du roi près de la Compagnie des Indes, contrôleur général pendant 9 mois en 1759. On raconte que dans sa jeunesse, il s'amusait à couvrir les murs de dessins tracés d'après l'ombre des visages. Voilà, donc les silhouettes. Et le nom est resté dans le langage courant quand il y a une silhouette. Alors, le ministre de Paris, donc, à l'époque, qui était Philippot, comte de Saint-Florent, ministre de la Maison du Roi de 1749 à 1775. Alors, ministre de Paris persuadu à Louis XV qu'un seul homme pouvait rétablir la situation et que cet homme était Bertin. Celui-ci ne se récriait, il savait que cet honneur comportait des périls. Il s'excusa d'abord de son inexpérience et de son peu de santé. Saint-Florentin lui répondit : le roi m'a chargé de vous demander de vous rendre ici demain matin si le sacrifice que vous lui faites de votre santé ne vous permet pas, dans quelque temps, de constituer, de remplir les fonctions qu'il vous confie. Vous pouvez compter sur ses bontés et sur ses marques qui vous en donneront. Et je vous le dirai demain davantage. Voilà. Et donc, je pense que le temps est arrivé à son terme. Eh bien, on reprendra la semaine prochaine les péripéties de Bertin, de Lille et donc de Bourdeille. Voilà. Au revoir et à bientôt.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.